Des engins explosifs improvisés tant vus en Afrique de l'Ouest, surtout dans le Sahel, font-ils leur apparition en Afrique de l'Est? Au Kenya, au moins 6 personnes ont été tuées et 7 autres blessées ce lundi 31 janvier après que leur minibus a roulé sur un engin explosif selon la police. Cela s'est passé aux environs de la ville de Mandera dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Somalie. L'attaque a eu lieu effectivement à 7h30 ce lundi matin sur l'axe Arabia-Mandera, à 8 km de la frontière avec la Somalie. Le minibus transportait 14 personnes lorsqu'il a d'abord roulé sur un engin explosif avant d'être la cible de tir d'armes automatiques et de lance-grenades, selon un rapport de police. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités kényanes soupçonnent le groupe terroriste Al-Shabaab. Toujours, donc, selon ce rapport, les assaillants ont pris la fuite en direction de la frontière avec la Somalie, où le groupe terroriste contrôle toujours de vastes zones rurales, une frontière réputée poreuse que les Shabaab ont déjà plusieurs fois franchie par le passé pour mener des raids dans la région. En juin dernier, les autorités du comté de Mandera avaient d'ailleurs interrompu la circulation de leurs véhicules suite à une multiplication d'incidents. Et ceux qui se font éjecter de l'Afrique de l'Ouest tenteraient-ils de rentrer en Afrique de l'Est? Vendredi dernier, la police kényane a aussi indiqué avoir renforcé son dispositif de sécurité, notamment dans le nord et l'est du pays, mais aussi dans la capitale Nairobi, après que plusieurs ambassades, donc la France, l'Allemagne et les États-Unis, ont indiqué avoir reçu des informations crédibles, selon eux, sur une menace terroriste dans le pays. L'ambassade de France a averti les autorités kényanes contre une attaque terroriste imminente dans le pays. L'ambassade de France a appelé les ressortissants occidentaux à éviter ce week-end les lieux de rassemblement des étrangers, tels que les hôtels et les centres commerciaux, en particulier dans la capitale Nairobi. L'ambassade d'Allemagne a pour sa part envoyé à ses ressortissants une alerte terroriste moins spécifique, les incitant à la prudence. La police kényane affirme avoir pris connaissance de l'alerte terroriste et avoir renforcé la sécurité. En guise de réponse, les autorités kényanes ont déployé un dispositif de sécurité dans l'espoir de contrecarrer tout projet d'attaque terroriste dans le pays. Est-ce l'ouverture que la France et ses alliés ont trouvée pour tenter de se déployer en Afrique de l'Est? Après son échec cuisant en Afrique de l'Ouest, la France tenterait-elle de se redéployer en Afrique de l'Est? Elle a essayé d'entrer déjà au Mozambique, mais ce fut un échec. Le président mozambicain n'a pas cédé aux pressions et a opté pour une lutte contre le terrorisme avec une coopération intra-africaine et surtout intra-régionale, plutôt qu'une coopération avec les Occidentaux et particulièrement avec la France. Ce qui a complètement chamboulé les plans de Paris qui comptait prendre le monopole des ressources naturelles au Mozambique à travers la société Total. D'ailleurs, contrairement à la CEDEAO, la SADC a pris les choses en main et a décidé d'apporter son assistance militaire à Maputo dans sa lutte contre le terrorisme. Et pour rappel, c'est bien ce qui avait provoqué l'ire du géant français Total qui n'arrêtait pas de menacer le gouvernement mozambicain de partir si le problème était géré, donc de manière intra-africaine. Et Total est bien parti et le Mozambique continue sa lutte contre le terrorisme et c'est un succès. La police du Mozambique a annoncé donc déjà lundi la mort d'un chef terroriste tanzanien responsable d'importantes attaques dans le nord du pays, tué dans une opération des forces de sécurité. Tuahil Muhidim, qui avait notamment mené l'attaque de 2020 qui avait permis la prise de Mocimboa d'Apraya, le port du nord, où arrivaient des cargos pour le compte des gros projets gaziers en cours dans la région. Il a été tué ce samedi par les forces mozambicaines et rwandaises, a annoncé le commandant général de la police à la radio nationale. Et dans la même opération, les forces de sécurité mozambicaines et rwandaises ont tué aussi un autre rebelle et saisi 2 armes, a-t-il ajouté. Le Rwanda et la Communauté de développement d'Afrique australe, donc la SADC, qui regroupe 16 États, ont envoyé en juillet-août au moins 3000 soldats en soutien à l'armée mozambicaine. Les attaques ont également provoqué la suspension des projets d'exploitation des réserves sous-marines de gaz naturel au large de la région, représentant des milliards de dollars d'investissement. Sauf que maintenant, vu les problèmes majeurs que rencontre la France et ses intérêts en Afrique de l'Ouest, surtout dans le Sahel, la France tente maintenant de se relancer en Afrique de l'Est. Total Energy tente de se relancer au Mozambique, moins d'un an après la suspension de son projet gazier. Le PDG de la société, Patrick Pouyanné, s'est rendu lundi à Maputo où il a rencontré le président Philippe Nyusi. Total affiche une volonté forte, relancer le plus rapidement possible le projet de production de gaz naturel. La province du Cabo Delgado est toujours en proie à des violences selon lui. Mais d'après lui, le PDG donc de Total, beaucoup de progrès ont été faits en peu de temps, assure le PDG. Il ne resterait que quelques pas à faire pour une sécurité durable dans la région. Selon lui, il a d'ailleurs annoncé un nouvel accord avec l'État à la clé, un financement des projets agricoles et d'éducation pour les populations locales. En bref, quelques miettes de plus par rapport au premier accord que le Mozambique n'a pas réellement accepté. Encore faudrait-il que Maputo accepte. La France et même ses alliés occidentaux sont désemparés suite à ce qu'ils vivent en Afrique de l'Ouest. Mais Paris tente de compenser ses pertes en Afrique de l'Est. Mais c'est quasi peine perdue si la France rencontre des difficultés en Afrique de l'Ouest. Et le fait qu'elle passe pour la risée au niveau international, il est clair que ce n'est pas en Afrique de l'Est qu'elle pourra faire quoi que ce soit. Au Burkina Faso, la situation a l'air de prendre une toute autre tournure, contrairement à ce que croyait la population en se basant sur les évolutions au Mali. Tout d'abord, l'établissement d'une nouvelle constitution, qui a l'air assez correcte aux yeux de la population burkinabé, mais ce sont plus les actes pour le pays que tout le monde attend de voir de la part des nouveaux dirigeants du Burkina Faso. Cela dit, les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ont rencontré dans l'après-midi de ce 31 janvier une mission conjointe de la CEDEAO donc, et de l'Organisation des Nations Unies. La délégation de la CEDEAO, composée du président de la Commission, de la représentante résidente de l'organisation au Burkina Faso et des ministres en charge des affaires étrangères au Nigeria, du Bénin et de la Gambie, était conduite par le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Shirley Ayorkor Botchway. Anadif Khatir Mahamat Saleh, représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, était à la tête de la délégation onusienne. Les chefs d'État ont demandé que la mission vienne et échange avec les autorités ici pour faire le point, examiner la situation et voir quel est le futur pour le Burkina Faso, a déclaré le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'intégration régionale au terme de leur mission. Cette mission conjointe a été décidée à l'issue donc du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le 28 janvier dernier, un sommet qui a suspendu donc évidemment le Burkina Faso des instances de la CEDEAO. Lors de son séjour au Burkinabé, la délégation conjointe a également eu des échanges avec le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de l'État. Il s'agit de voir comment nous pouvons travailler avec le Burkina donc pour que le pays puisse sortir de cette situation, a estimé Botchway. Les membres de la mission conjointe ont aussi rendu visite à l'ancien président Roque Marc Christian Caboret, conformément à la volonté exprimée des chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons vu qu'il est en bonne santé, tel qu'il apparaît, on a pu échanger avec lui, annonce le chef de la délégation. Le rapport de la présente mission sera remis donc au chef d'État de la CEDEAO pour examen lors du prochain sommet de l'organisation communautaire prévue le 3 février prochain à Accra. La délégation s'est entretenue donc pendant près de 3 heures avec les membres du nouveau pouvoir, dont le président du MPSR, le lieutenant-colonel Damiba. Nous avons discuté des voies et moyens de sortir de la crise et dans quelle mesure la communauté internationale, l'ONU et la CEDEAO peuvent les accompagner, et nous avons trouvé un certain nombre de disponibilités, comme l'a indiqué Anadif, qui a qualifié les échanges de très francs et dit avoir trouvé ses interlocuteurs très ouverts. Quant au président de la commission de l'organisation sous-régionale, Jean-Claude Brou, il a noté leur disponibilité à travailler avec la CEDEAO. Et je crois qu'on s'est bien compris pour une première rencontre, il y a eu de très bons échanges également avec le chef de l'État, affirme-t-il. Rien n'a filtré donc du contenu précis des discussions dont la primeur sera réservée donc au sommet régional de jeudi à Accra. Le compte rendu de la mission donc, ainsi que celui des chefs d'état-major de la sous-région venus à Ouagadougou samedi serviront de base de travail aux chefs d'état qui décideront des suites à donner. Une étonnante réaction de la part de la communauté internationale, mais bon, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Il faut encore attendre de voir les actes des militaires au pouvoir, surtout au niveau sécuritaire, car c'est ce qu'attendent donc les Burkinabés dans un premier temps. Entre-temps, contrairement aux proches du président russe Vladimir Poutine, selon certaines sources d'information, Moscou n'est pas très favorable maintenant au putsch au Burkina Faso. Alexei Zaïtsev, donc le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, s'est prononcé sur la situation sociopolitique du Burkina Faso et dans sa déclaration, il a fait savoir « Moscou a donc adopté une position de principe donc selon laquelle les actions anticonstitutionnelles visant à changer le pouvoir sont inacceptables. La Russie a pris acte du coup de force militaire au Burkina Faso et de l'ensemble des mesures prises par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui a pris le pouvoir le 24 janvier. Moscou dit suivre avec une attention particulière l'évolution de la situation sociopolitique du Burkina Faso. Nous continuons à suivre attentivement le développement de la situation au Burkina Faso dont le président Roch Kaboré a été écarté du pouvoir suite à un putsch le 24 janvier. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, donc dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a pris le pouvoir et annoncé la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la fermeture des frontières de l'État et l'imposition de couvre-feu. Selon Alexei Zaïtsev, donc nous sommes préoccupés par ces événements au Burkina, pays ami, comme l'a-t-il déclaré, et qui a donné donc la position de son pays sur le coup d'État du Burkina Faso. Et d'après sa déclaration, la Russie ne cautionne donc l'acte anticonstitutionnel posé par le patron des militaires, donc le lieutenant-colonel Damiba. Moscou appelle donc à un retour rapide à une gestion civile. Tout comme la CEDEAO, l'Union africaine et celle européenne, la Russie a exigé la libération de Kaboré, détenu par les putschistes. Nous demandons la libération immédiate du président du Burkina Faso, Roch Kaboré, et le retour rapide du pays à une gestion civile, conclut le diplomate russe. Cette déclaration, très attendue de la Russie en raison de l'actualité géopolitique de la sous-région, marquée sur la présence au Mali et des manifestations pour demander l'aide militaire russe à Ouagadougou, est une première depuis le coup d'État du lundi 24 janvier. Elle intervient après celle de Prigojine, donc réputée proche de Vladimir Poutine et donc homme des basses œuvres de Moscou en Afrique, s'est félicité du coup d'État à Ouagadougou et a salué une nouvelle ère de décolonisation. Une communauté occidentale contente, une Russie pas contente, bref, la situation a l'air de prendre une tournure différente que celle que le peuple burkinabé demande. De toute façon, quelles que soient les intentions du nouveau pouvoir à Ouagadougou, le peuple a récupéré sa souveraineté. Comme il a déjà été dit auparavant, peu importe qui prend le pouvoir au Burkina Faso, sans suivre les revendications du peuple, il ne pourra pas faire long feu. Au Mali, l'expulsion de l'ambassadeur et l'humiliation continue de la France fait beaucoup parler chez les candidats à la présidentielle. Le Mali continue sur la voie de la sauvegarde de sa souveraineté nationale et pourtant en France, les politiques n'ont pas l'air de comprendre ça. Les réactions fusent du côté de Paris depuis l'annonce de l'expulsion le lundi donc 31 janvier de son ambassadeur du sol malien par Bamako. Si le ministère français des Affaires étrangères dit « prendre note », de cette décision, cette dernière semble mal accueillie au sein de la classe politique française, à en croire les réactions de quelques candidats à l'élection présidentielle d'avril 2022. Écoutez un peu le summum de l'arrogance. Les militaires maliens, incapables de protéger leur propre pays, osent chasser notre ambassadeur, fustige la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Elle a promis qu'une fois présidente de la République, elle fera respecter la France et son armée. Face à l'attitude de la junte militaire, il faut bloquer l'aide au développement et le transfert de fonds, y compris individuels, qui partent donc de France vers le Mali, qui fait 12% du PIB du Mali. Je ne supporte pas que notre armée soit humiliée par le gouvernement malien, a-t-elle lancé sans concession. Quant au candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, il se veut un peu plus mesuré et appelle donc à vider l'abcès avec Bamako et à la définition d'un plan d'action par le Parlement. Avant que les sacrifices et nos morts au Mali n'aient été rendus vains, avant que la déchirure soit complète, il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir malien actuel. Et que l'Assemblée nationale soit saisie et décide d'un plan d'action, a déclaré le candidat insoumis. L'expulsion du diplomate par les autorités maliennes de la transition passe mal chez Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle française. Pour lui, La France ne peut pas être le paillasson du Mali. 53 militaires français ont donné leur vie au Sahel et le gouvernement malien ose expulser notre ambassadeur, développe-t-il. Il évoque des mesures de rétorsion, la suppression de tout visa pour de nouvelles entrées de Maliens sur le sol français, l'expulsion manu militari des Maliens clandestins résidant en France, la révision de notre dispositif militaire au Sahel, etc. etc. Éric Zemmour, quant à lui, fait remarquer que les soldats français meurent pour un pays qui humilie la France. Nous nous battons pour expulser les terroristes du Mali. Mais le Mali expulse notre ambassadeur. Nos soldats meurent pour un pays qui nous humilie. Toute la politique africaine de la France est à repenser, a écrit sur Twitter le candidat donc à la présidentielle française. Aucun d'entre eux n'a réellement compris la demande du Mali, à savoir le respect, l'équité, et aucun d'entre eux ne parle des centaines de milliers de morts qu'il y a eu donc, du côté malien, aussi bien chez les militaires que chez les civils. Si le Mali demande aux soldats danois, notamment, de plier bagages, c'est parce qu'ils ont débarqué sans le consentement du gouvernement malien. Jean-Yves Le Drian, qui dit que le gouvernement est illégitime, c'est à la France de le dire, ou au peuple malien. Il est tout de même incroyable que personne ne parle de ce que demande le peuple malien. Mais bon, on va dire qu'ils sont dans le déni le plus total. Et c'est clair que le Mali humilie la France, là on est tous d'accord, mais en fait... C'est la France qui s'humilie toute seule dans cette histoire et surtout ses dirigeants actuels, tout simplement parce qu'ils sont mouillés jusqu'au cou. Récemment, une affaire de passeport en tâche, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui tente tant bien que mal d'étouffer ce genre de dossier qui remonte à la surface. Selon certaines rumeurs qui enflent sur les réseaux sociaux, les autorités maliennes auraient ouvert une enquête sur l'attribution du marché des passeports biométriques maliens à une entreprise bretonne sur pression, évidemment, de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. L'histoire remonte à 2015. Le Drian, alors ministre de la Défense, a en charge l'opération Barkhane. Il profite de sa position pour tordre le bras au président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, afin que l'entreprise bretonne immédiate donc anciennement Oberture, obtient le marché des passeports et remplace la société canadienne Banknote qui était jusque-là chargée de la confection de ces documents. À l'époque, l'affaire avait fait déjà scandale au Mali, les députés s'en étaient emparés, avaient posé donc des questions à l'Assemblée nationale. En effet, outre que ce marché ait été passé de gré à gré, la facture donc des passeports avait explosé et les recettes du gouvernement diminuées. Bref, ce n'était pas une bonne affaire pour le Mali. Sauf peut-être pour un homme d'affaires du nom de Thomas Le Drian, le fils du ministre. En juin dernier, le média mainstream Jeune Afrique, qui ne nous avait pas habitués à une telle audace contre les autorités françaises, avait révélé l'affaire, sans pratiquement aucune reprise par le reste de la presse française. Il était clair qu'en haut lieu, Jean-Yves Le Drian n'avait visiblement pas que des amis. L'été suivant, Le Drian voyait sa cote de popularité chuter à l'Élysée. Au point que l'hypothèse de son départ du gouvernement était évoquée, il y a une chance sur deux qu'il s'en aille, avait confié un député influent dans Marche à Monde Afrique. Mais là encore, silence radio des principaux médias français. Le Drian, l'artisan de la politique échec et défectueuse africaine de la France depuis 10 ans, est à ce titre principal responsable du désastre des relations entre Paris et Bamako, veille à son image. Une image qui s'est tout de même fortement dégradé suite à la politique souverainiste que le Mali a décidé d'adopter. Bref, cette affaire est un petit grain de sel par rapport à tout ce que la France et ses alliés occidentaux ont fait au Mali et en Afrique de l'Ouest en général. Les politiques africaines doivent entrer dans la dénonciation, comme l'a fait le gouvernement malien, histoire que tout le monde sache une bonne fois pour toutes ce que la France fait en Afrique et pourquoi les populations africaines considèrent la présence des Occidentaux comme une présence d'occupation. Car oui, pour les naïfs qui croient encore aux propos de l'oligarchie française qui prétendent que c'est seulement de la manipulation qui vient de la Russie, il serait grand temps qu'ils sachent que cette colère ne date pas d'hier. Elle a seulement atteint un tel degré qu'il n'est plus possible de la contenir.
Le Mali exige le départ de l'ambassadeur français d'ici 72 heures, suite aux propos outrageux de Jean-Yves Le Drian. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Bamako condamne vigoureusement et rejette les propos tenus par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier a fustigé le jeudi 7 janvier des mesures irresponsables d'une junte illégitime. Nouvelle escalade des tensions entre la France et le Mali. Dans un communiqué publié lundi 31 janvier, le ministère malien des Affaires étrangères exige le départ de l'ambassadeur français auprès du Mali, Joël Meillet, du territoire du pays ouest-africain d'ici les prochaines 72 heures. Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire à la frontière ivoiro-guinéenne sans encombre. La situation sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire et la République de Guinée est sans encombre, a rassuré le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest au cours d'un entretien lundi 31 janvier 2022 à sa base à Mans. Suite à des informations relayées par certains médias la semaine écoulée, en faisant état du délogement de militaires ivoiriens de leur position dans la localité de Sipilou par l'armée guinéenne le 19 janvier 2022 pour occupation illégale de territoire, le chef des opérations de l'Ouest s'est voulu clair. « Nos forces sont toujours à leur position. Je le dis bien, il n'y a pas de soldats qui aient été chassés sur les positions. Tout le monde est en place. » Burkina Faso. Après le putsch, le procès Sankara repoussé. Le procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara, est reporté jusqu'au rétablissement de la Constitution. Le pays a été suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont une délégation s'est entretenue lundi avec la junte au pouvoir. Nigeria. Le gouvernement fédéral veut mettre la 5G au service de la sécurité, entre autres. Le Nigeria fait désormais partie du cercle restreint des pays africains où la 5G est opérationnelle. Les autorités veulent miser sur cette technologie pour améliorer la protection des personnes et des biens, un sérieux défi auquel le pays fait face depuis quelques années. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a présidé le mardi 25 janvier à Abuja le lancement de la politique nationale sur les réseaux de 5e génération 5G. Le chef de l'État voit dans cette nouvelle technologie de nombreuses opportunités pour l'économie nationale, notamment la sécurité et le bien-être de la nation.